la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission scientifique qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. Et j'espère que ce grand week-end vous a fait du bien. Vous l'avez senti, ce petit parfum, celui des jours qui rallongent, du soleil qui réchauffe et des barbecues qui crépitent. L'été, quoi. Bientôt les baignades, les vacances et, bien sûr, l'incontournable balai des nouveaux touristes de Palavas désertant en courant les terrasses lorsqu'à 19h pétante, un escadron de moustiques tigres les assaille. Raconté comme ça, ça vous fait rire, hein, oui, moi aussi. Mais l'autre histoire, c'est celle du restaurateur, pour qui la pire des piqûres sera l'impact de ces satanées bestioles sur son bilan comptable. Et la note est peut-être bien plus salée qu'on ne le pensait. Pour la première fois, des scientifiques du CNRS, de l'IRD et du Muséum National d'Histoire Naturelle viennent de livrer l'estimation la plus complète jamais réalisée des coûts engendrés par les espèces envahissante, exotique. Et accrochez-vous parce que là encore, ça pique. Il s'élèverait à près de 1300 milliards de dollars en l'espace de 40 ans. Leur étude a été publiée dans la prestigieuse revue Nature le 31 mars dernier. Nos invités du jour sont co-auteurs de ce papier. Le premier est avec nous en studio. Il est économiste au SEM, spécialisé dans l'économie de l'environnement et l'économie de la biodiversité. Jean-Michel Salle, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'être avec nous. Le second est avec nous par téléphone. Il est chercheur à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution. Rodolphe Gozlan, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous également. Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview, l'envahissante mais toujours exotique Aline Perriot. Et oui, je l'ai casée.
Et oui, je m'y attendais.
Bonjour. Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, le reportage En salle des machines vous emmène au CIRAD où Patrick Langbourg fait visiter une collection qui envoie du bois, la Xylothèque. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors, pour commencer, une question peut-être pour vous, Rodolphe Gozlan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'espèces envahissantes ?
Alors, les espèces envahissantes sont des espèces qui, originellement, n'étaient pas présentes dans un endroit, dans un écosystème, c'est-à-dire ou aquatique ou terrestre, et que, par des mécanismes souvent liés à des activités humaines, ont été introduites dans ces écosystèmes. Donc, ce sont des espèces nouvelles qui viennent de l'extérieur, qui sont introduits dans un écosystème et qui s'adaptent plutôt bien, qui survivent bien, qui s'y reproduisent et qui s'y établissent et qui progressent et se dispersent. Et de façon plus ou moins rapide, mais de façon progressive. Donc, elles commencent à envahir les nouveaux écosystèmes et donc, d'une certaine façon, à monopoliser des ressources qui étaient normalement allouées à des espèces locales, natives, et à occuper des niches dans l'écosystème qui appartenaient à d'autres espèces natives. Donc il y a des conséquences à l'introduction de ces espèces, et on les retrouve dans toutes sortes de climats, dans toutes sortes de... Ce sont généralement des espèces qui sont robustes, qui n'ont pas trop de mal à s'adapter à des habitats et des environnements très, très différents de là où... elles viennent et donc on les a pratiquement dans tous les types d'écosystèmes marins, aquatiques, terrestres. Quoi. Voilà.
Alors justement, vous nous avez parlé des conséquences. On entend souvent parler de l'impact des espèces sur la biodiversité ou sur la santé humaine, mais plus rarement de son impact économique. Lucie l'a dit en introduction, c'est une première mondiale, cette étude à cette échelle. Pourquoi est-ce que vous avez voulu chiffrer les conséquences économiques des espèces envahissantes ?
Jean-Michel Salle.
Il existe depuis longtemps des études au cas par cas où l'impact ou les coûts associés à la gestion des espèces invasives ont été recensés, étudiés et dans le meilleur des cas publiés dans un journal qui valide la méthodologie et la façon dont ça a été calculé. Donc l'étude portait sur une compilation de toutes ces études. Et quel était l'intérêt de compiler des centaines d'études pour essayer d'avoir un montant global ? C'était une façon de tirer la sirène d'alarme, c'est-à-dire c'est de montrer que Globalement, c'est un montant considérable, je crois qu'on y reviendra, et c'est une façon de faire réagir les pouvoirs publics en disant qu'il est urgent de mettre en place des politiques de limitation des impacts ou d'évitement que les invasions se développent.
Alors, donc oui, on va en parler même tout de suite de ce coût. 1300 milliards de dollars entre 1970 et 2017. Donc, comment vous vous y êtes pris pour chiffrer cette somme ?
Alors d'abord, on s'y est pris en étant nombreux. C'est un travail collectif qui a été initié essentiellement par Franck Courchamp, un collègue d'un labo de la région parisienne, qui a mobilisé autour de lui un certain nombre de chercheurs et qui est venu chercher des compétences complémentaires sur Montpellier, donc notamment Rudolf et moi, et aussi David Roy, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Le principe a été de recenser dans la littérature tous les travaux qui, depuis, alors, au début, on avait essayé, depuis les origines, avaient recensé, avaient mesuré des coûts d'espèces invasives. Finalement, on a fait le choix de limiter à 70 parce que les données qui existaient pour avant étaient très peu nombreuses, plutôt moins fiables que les autres parce qu'à l'époque, la méthodologie n'était pas encore trop rodée, et surtout si peu nombreuses que ça revenait à un tirage au hasard. Elles étaient représentatives de rien, quoi. Lorsqu'on a une étude par-ci, par-là, le fait de faire une addition n'a pas de signification particulière, alors qu'à part de 60, à partir de 70, il y en avait suffisamment pour que l'agrégation ait un sens.
Mmh. Et il y a des bases de données qui vous permettent justement d'obtenir toutes ces informations ?
L'essence du projet, ça a été de constituer cette base de données. Donc le grand projet initial, donc piloté par Franck, a été de créer cette base de données qui s'appelle Invacost, qui est en accès libre. Donc à partir du papier d'Anetch, il y a les correspondances, les conditions d'accès. Donc tout chercheur qui veut y accéder, y a besoin, elle est disponible. Et cette base est constituée de façon aussi analytique que possible, c'est-à-dire il y a l'étude, et derrière sont analysés les types de coûts, comment ça a été mesuré, qu'est-ce que ça revient, et surtout elle est normalisée, c'est-à-dire tout est transformé en une seule monnaie, hein, parce que les études qui ont été faites au Pérou, au Mozambique ou à Hong Kong n'ont pas la même monnaie, donc tout est normalisé et ramené à des dollars 2017, si mes souvenirs sont bons.
Alors justement, quel impact vous avez mesuré ? Donc vous avez, on imagine, l'agriculture par exemple, mais quel autre secteur
Alors, avant de parler de la nature d'impact, peut-être il faut comprendre ce que c'est que le coût des espèces invasives. Et fondamentalement, il y a deux types de coûts. Il y a les impacts, les dommages que créent les espèces, et il y a tout ce qu'on dépense pour limiter les dommages. En tant qu'économiste, on se dit que la situation idéale, ça serait qu'on dépense pour éviter jusqu'au moment où ça coûte plus cher d'éviter que de supporter. Et c'est ça qui fait que le coût est le plus bas possible. Donc la première dichotomie, c'est entre les coûts de gestion et les coûts des impacts et des dommages. Dans les coûts des dommages, il y a un deuxième niveau de distinction. Il y a des coûts qui sont liés au marché. C'est-à-dire on va perdre des touristes, comme dans votre intervention sur le moustique-tigre. On va devoir refaire les barrages, comme avec les moules zébrées en Amérique du Nord. On va avoir des choses concrètes et monétaires. Et puis, on va avoir des choses qui ne sont pas monétaires. C'est-à-dire, si les gens ne viennent pas, si les gens renoncent à un certain nombre d'activités et autres, c'est une perte de bien-être, mais qui ne se révèle que dans des enquêtes avec des méthodes ad hoc plus ou moins robustes, mais qui existent. Mmh. Et il y a une troisième dichotomie, excusez-moi, qui est la distinction entre coûts directs et indirects. Donc les coûts directs sont ceux qui sont directement liés à l'invasion, et les coûts indirects sont les conséquences. C'est-à-dire quand le restaurateur perd des clients, il va licencier des gens qui vont peser sur le marché de l'emploi, il va y avoir des coûts indirects qui vont se répercuter ailleurs. Donc pour revenir à votre question, quels sont les secteurs les plus impactés ? On n'a pas fait cette agrégation que je sache, en tout cas je n'étais pas dedans, mais clairement il y a l'agriculture, il y a la foresterie, il y a tout ce qui concerne les infrastructures, les ponts, les barrages, les routes, par exemple quand il y a des invasions de termites, tout ce qui est à l'habitat. Donc vous voyez, ça touche la plupart des secteurs d'activité et de façon en plus assez variée selon la forme de l'invasion.
Mmh. Donc si on revient sur la somme 1300 milliards de dollars, c'est pas très parlant pour le grand public, vous pourriez nous donner un élément de comparaison ?
Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, cette somme, je ne sais pas si on va y revenir, elle est un minimum. C'est-à-dire, ce n'est la somme que des études dont les calculs étaient parfaitement clairs, qui étaient reproductibles, ce qui est un critère de scientificité habituel, et pour lesquels on avait toutes les données pour vérifier. Si on avait compilé toutes les études qui ont été recensées, on trouverait 4 ou 5 fois plus. Alors, est-ce que c'est beaucoup, 1300 milliards ? C'est à peu près la moitié du PIB français l'année dernière. Mais c'est à l'échelle mondiale et sur 40 ans. Donc, voilà, c'est une somme très importante. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, qui, comme vous le dites, n'ont pas beaucoup de signification. Ça n'a aucun lien avec les budgets qu'on gère habituellement. Mais il faut dire que c'est une somme importante qui croît très vite. Hein, elle se multiplie par deux tous les 6 ans sur la période de mesure. Ouais. Et qui représente une somme qui commence à être considérable, même en se limitant à des études vraiment valables, alors qu'il y a des tas d'estimations qui ont été écartées parce qu'on n'était pas très sûr de la méthode qui avait été utilisée.
Alors, pour revenir à des exemples un petit peu concrets, on a entendu moustique-tigre, vous avez parlé de moules zébrées, et dans votre communiqué, comme ça, il y a quelques exemples un peu emblématiques, la fourmi de feu ou le rat noir. Peut-être une question pour vous, Rodolphe Gozlan, qu'est-ce qu'elles font ces espèces qui coûtent autant d'argent ?
Alors, elles n'ont pas toutes les mêmes impacts. Certaines modifient considérablement un écosystème, c'est-à-dire qu'elles ont un effet d'ingénieur sur le système, c'est-à-dire comme les moules zébrées, elles vont filtrer l'eau et puis elles vont, surtout dans les grands lacs aux États-Unis, bloquer tout ce qui est les turbines des centrales hydroélectriques. Et donc, il va y avoir des coûts associés au nettoyage de ces turbines et donc qui doivent se faire régulièrement. Après, il va y avoir d'autres espèces qui vont plutôt avoir des coûts sur la santé humaine. Le moustique-tigre, comme vous le disiez, a été un grand facteur qui a permis aux Zika de se déployer à travers la planète et a émergé dans plein d'endroits parce que c'était un bon vecteur et puis il s'est répandu très, très rapidement, même sous les tropiques. Il y a donc des espèces comme l'ambroisie qui est une plante qui va créer des allergies, donc il y aura des problèmes, des coûts liés à la santé. Il y a des espèces aquatiques, vous avez des fois des écrevisses ou des poissons qui amènent des maladies, qui font tomber tout le secteur des pêcheries. Donc, vous voyez, les coûts sont multiples. Et puis, au bout du compte, ils ne sont pas toujours bien pris en compte. C'est-à-dire que l'espèce qui va avoir un coût sur la disparition d'une espèce rare ou d'une plante rare ou qui va modifier un écosystème qui est quelque chose de précieux, n'a pas encore vraiment une valeur au sens économique, même si elle a un patrimoine culturel ou si c'est un patrimoine qui nous appartient à tous au niveau de notre nature et de notre environnement. Ces coûts-là ne seront pas forcément aussi bien pris en compte qu'une espèce qui va avoir des coûts chiffrés sur une pêcherie ou sur des turbines d'usine ou sur la santé humaine. Donc il faut faire attention quand on parle de coûts économiques. C'est ce qui a été une grosse problématique dans nos modèles économiques de ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à évaluer le coût de la nature, la valeur de la nature. Donc là, l'étude qu'on a faite est d'une certaine façon une façon de parler le même langage que les économistes et de leur donner les moyens de comprendre que la destruction de la nature, donc là, en l'occurrence par les espèces invasives, a aussi un impact dans le système et dans le modèle économique qu'il faudra prendre en compte dans les années à venir.
Et du coup, sur un autre exemple un petit peu concret, parce que c'est vrai qu'on ne se représente pas forcément ce que ça peut coûter. Moi, j'ai lu des choses sur la grenouille coquille à Hawaï. Qu'est-ce qu'elle fait comme dommage au niveau économique, la grenouille coquille ?
Ah, je ne pourrais pas vous dire ce...
Ah, parce que... D'accord.
Mon domaine. Mais par contre, comme je vous disais, c'est-à-dire que souvent... il y a un déplacement des espèces locales, hein. Donc à un moment donné, le coût va être soit dans la gestion de l'environnement, on va modifier les écosystèmes, on va adapter les écosystèmes, où on va avoir des équipes qui vont aller faire des surveillances pour des programmes d'éradication. Donc tout ça, ça a un coût en hommes, en fonds publics. Il va y avoir aussi sur certaines espèces aquatiques des gestions de pêche. Donc ça va avoir des implications sur le nettoyage des bateaux, par exemple, pour ne pas transmettre des essaims de moules zébrées dans d'autres lacs. Il va y avoir des coûts liés à la communication aussi aux gens, pour pas qu'on les transporte artificiellement parce que voilà, on la trouve belle ou on la trouve jolie, on la met dans un aquarium un jour, et puis un jour on se dit oh là, il faut que je déménage, on met l'aquarium dans la rivière du coin ou dans le lac du coin. Voilà, donc il y a des le coût est très diversifié en fonction des espèces, mais au bout du compte, il vient dans la gestion, le management, disons, de ces espèces, la gestion de ces espèces, et aussi des coûts sur des industries, les industries hydroélectriques ou les industries de agriculture, pêche, enfin voilà, c'est les secteurs économiques qui sont directement impactés. Ça pourrait être les arbres, la foresterie avec certains invertébrés qui...
Je m'excuse, je vais vous couper un petit peu parce que l'émission avance très très vite. Est-ce qu'on peut revenir justement sur les solutions? Donc vous préconisez un peu dans cette étude donc des solutions pour limiter les coûts justement liés aux espèces envahissantes, et puis est-ce qu'il y a des pays justement qui ont, alors je ne sais pas lequel d'entre vous peut répondre à cette question, vous Rodolphe, alors quels sont les pays qui sont modèles un peu sur ces mesures prises?
Bon, quand on pense à la gestion des espèces envahissantes, un pays qui a vraiment pris conscience de ça il y a fort longtemps et qui gère ça de façon très efficace et très bien, et pour des raisons, parce qu'ils ont été confrontés à ces problématiques très tôt, c'est l'Australie par exemple. Alors, ils ont une gestion de ces espèces-là qui est appuyée par une législation qui est assez forte. Au niveau de tout ce qui est douanier, il y a une vraie interdiction. Bon, alors, en même temps, l'avantage d'être une île continent, c'est qu'on peut mieux contrôler peut-être les imports. Mais vous voyez, par exemple, le Royaume-Uni, qui est une île aussi, n'a pas eu ce genre de d'approche pendant des années et ont subi les conséquences. Donc, ça ne suffit pas d'être une île. C'est vrai que c'est un avantage. Mais disons que tout ce qui est douanier, il y a une vraie législation qui appuie le travail des douanes justement pour éviter l'introduction. C'est quand même la première étape, hein, avant la gestion de ce qui est arrivé, d'éviter à ce qu'elle rentre dans le pays. Et puis il y a beaucoup de communication aussi, hein, donc en amont. Je pense que les Australiens ont une vraie culture de ne pas introduire des espèces dans leur milieu, parce que ça a été quand même les premiers avec, on sait tous, les introductions de lapins, ce que ça a créé en Australie. Donc la législation, donc en Europe on s'y met, hein, on commence à s'y mettre, et des études comme la nôtre vont permettre de prendre en considération cette question à un niveau politique.
Ah oui, justement, donc, parce que dans votre étude, vous appelez à des mesures de gestion et d'accords politiques internationaux. Est-ce que cette dimension politique, elle est indispensable pour lutter contre les espèces envahissantes?
Ben, vu que l'espèce envahissante vient généralement d'un écosystème qui n'appartient pas au pays dans lequel elle a été introduite, il faut des accords internationaux évidents. Alors la difficulté, c'est qu'on a la libre circulation des biens et des personnes, c'est-à-dire le free trade, comme on dit, hein, le libre marché entre les pays, sauf que un libre marché dérégulé au niveau de l'introduction d'espèces vivantes, ou même, alors, parce que il y a parmi ces introductions des accidents, c'est-à-dire des espèces qu'on a introduites de façon non volontaire, hein, évidemment. Donc il faut qu'il y ait une coordination dans les différentes politiques des différents pays. Par exemple, vous voyez, il y a des rivières des fois qui sont communes à beaucoup de pays, comme par exemple le Danube, hein, qui traverse plein de pays européens. Donc il ne suffirait pas de gérer les introductions au niveau de son pays, mais il faut faire une gestion globale du système, parce qu'une introduction en Allemagne va avoir des implications en Autriche et plus tard jusqu'en Roumanie, quoi.
Alors... Donc, juste, oui. Je m'excuse parce qu'on va arriver au terme de l'interview. Juste, je voudrais redonner la parole un petit peu à Jean-Marie Salle. À Jean-Michel Salle avant de clôturer. On n'est pas encore, enfin peut-être que le grand public n'est pas encore habitué à voir les économistes arriver sur le terrain de la biodiversité justement ou de l'environnement. Qu'est-ce que ce genre d'études apporte en termes d'impact et d'application justement, peut-être au niveau de la communauté internationale? Très rapidement.
Je vais essayer d'être rapide en disant que c'est un mouvement un peu double, c'est-à-dire les naturalistes et les conservationnistes ont demandé depuis longtemps l'appui des économistes, avec cette idée que les dirigeants sont avant tout sensibles à des considérations financières, d'emploi, de taux de change et compagnie. Et donc, si on arrivait à mettre en évidence que les impacts environnementaux en général et les problèmes d'invasion biologique en particulier avaient des impacts forts, ça serait un argument fort pour déclencher ce que vient de définir Rudolf, c'est-à-dire un ensemble de mesures contraignantes qui vont avoir des coûts. Donc pour faire accepter des coûts, il faut montrer qu'il y a des bénéfices, et les bénéfices, c'est d'éviter les coûts des dommages. Après, Rodolphe l'a dit aussi, y a quand même eu parfois des petites déceptions, c'est-à-dire que le fait de réduire les impacts à ceux qu'on était capable d'évaluer économiquement a conduit à sous-estimer certains impacts, et l'exemple qui a été pris tout à l'heure était assez bien choisi. Une espèce qu'on considère à valeur patrimoniale, finalement, son impact économique, il est souvent un peu difficile à saisir. C'est pas pour autant que c'est pas important. Et donc, il faut en permanence, je dirais, marcher sur les deux pieds, c'est-à-dire, d'une part, avoir une préoccupation réellement écologique pour maintenir le fonctionnement des écosystèmes, les grandes régulations, éviter les perturbations violentes que les écosystèmes ne sont pas assez résilients pour encaisser, et d'autre part, être capable de continuer à construire les meilleurs indicateurs économiques possibles, de façon à convaincre des gouvernants qui ont souvent bien d'autres priorités dans leur agenda, que c'est aussi important pour eux parce qu'ils vont avoir des conséquences en termes de chômage, de coûts dans les politiques publiques, et des choses auxquelles ils sont très sensibles, des coûts de santé auxquels ils sont très sensibles parce que c'est aussi des budgets importants et difficiles à gérer.
Un grand merci à vous deux, donc Jean-Michel Salle et Rodolphe Gosselin, d'avoir bien voulu participer à notre émission. Merci. Et on enchaîne maintenant avec notre séquence reportage en salle des machines. Et cette semaine, c'est Patrick Lambourg du CIRAD qui nous fait visiter une collection singulière, la Xylothèque.
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Alors, je suis Patrick Lambourg, chercheur au CIRAD depuis 25 ans. Et ici, vous êtes donc dans la Xylothèque, où nous avons une collection d'échantillons de bois qui a été initiée dans les années 37. C'est pas très original, mais en fait, les échantillons qui se présentent sous forme de petites planchettes de cette forme sont rangés dans les différents casiers, et c'est un arrangement classique de botaniste par famille, genre, espèce. Voilà.
Alors si je décris un petit peu ce que vous nous montrez, dans un seul tiroir, donc on a des petites plaquettes de bois, elles font 10
centimètres. Elles font 13 cm, 6 cm de large et 1 cm d'épaisseur environ. Voilà,
donc. Et sur chaque, on a une petite étiquette.
Donc sur chaque, on a une petite étiquette sur laquelle il y a un numéro. Donc la première, le numéro 1. Et aujourd'hui, on est au numéro 34 000 et quelques, sachant qu'on a un peu plus de 34 000 échantillons, qui représentent un peu plus de 230 familles, un peu plus de 8400 espèces. Voilà. Et sur les étiquettes, donc vous avez le numéro, un pays d'origine, un nom scientifique, parfois un nom vernaculaire, un nom également de la personne qui a pu récolter l'échantillon.
Donc là, on est en Polynésie. Et qu'est-ce que c'est comme bois ? Du pureau ?
Du pureau, voilà. Donc c'est du genre hibiscus, tiliaceus. Donc les hibiscus, vous savez, c'est les arbres qui font des fleurs, des jolies fleurs rouges. Voilà.
Donc comme on est au CIRAD, on se doute que ça vient de loin. Mais ça vient d'où exactement, tous ces échantillons ?
Alors ces échantillons proviennent de 123 pays. Et puis en nombre d'espèces, 8400 espèces. Voilà.
Est-ce que c'est des bois essentiellement tropicaux ou vraiment de partout ?
En fait, de partout, mais bon, la partie tropicale, de par la spécificité du CIRAD, qui est essentiellement tournée vers des actions de recherche, développement vers les pays du Sud, on a une collection qui est essentiellement de bois tropicaux, à hauteur de 90% bois tropicaux. Et nous avons 10% de bois tempérés. Voilà.
Donc si je vous demande du bois de la taïga, on ne trouvera pas ici, alors ?
Peut-être, on a des bois de Patagonie, on a des bois de... Si, je pense qu'on a peut-être des bois de la taïga, voilà.
Vous pourriez nous montrer des essences qui vous plaisent tout particulièrement ?
Oui, parmi les bois, vous avez des bois qui sont colorés.
Déjà, rien que la boîte est magnifique.
Bon, là, c'est une boîte pédagogique. Vous avez l'étendue de la gamme de couleurs des différents bois qu'on peut avoir. C'est-à-dire des bois très clairs, des bois sombres.
C'est magnifique.
En passant par des variétés de jaune, de brun rouge, et en plus en plus rouge, voire jusqu'à noir.
Le noir, c'est de l'ébène ?
Oui, celui-ci, c'est un ébène, mais ce n'est pas parce qu'un échantillon est noir que c'est un ébène. Vous avez des palissandres aussi qui sont noirs, donc je vais vous montrer des palissandres.
On peut toucher ?
Celui-là, il est un peu violet, c'est vraiment joli. Hein.
Trop violet, il y a des veines.
Vous avez orange, c'est du padouk d'Afrique. Violet, c'est un peltogine, c'est des amarantes, bois de Guyane.
Celui-là, il est doré presque.
Des bois typés, des bois... celui-là, voilà, bois serpent.
On voit des veinures très marquées. Oui. Hein. Qu'est-ce que c'est comme bois ?
C'est un bois d'Amérique du Sud, d'Amazonie, le mimosacé, voilà, et qu'on appelle bois serpent en Guyane. Vous avez des bois très, très odorants, hein, des bois de santal, d'autres lauracées par exemple. Et vous avez aussi des bois qui ne sentent pas bon.
Comme lequel ?
Un bois qui s'appelle bois caca. Son nom suffit à comprendre que ce bois ne sent pas bon.
Donc c'est écrit service des bois coloniaux sur l'étiquette, qu'est-ce que c'est ?
Avant d'être CIRAD, la collection faisait partie du CTFT, Centre Technique Forestier et Tropical. La personne qui a mis en place cette collection a récolté des échantillons de différentes petites collections qui existaient au niveau national. Ben, un des premiers services qui s'occupait des bois, c'était le service des bois coloniaux.
Donc ils ne doivent pas être jeunes alors ces échantillons-là ?
Non, le plus vieux échantillon date de 1867. Tout à l'heure, j'ai évoqué bois tropicaux, bois tempérés. Nous avons aussi des bois feuillus et des bois résineux.
Et vous les rangez distinctement alors ?
Oui, parce que comme c'est rangé de façon botanique, famille, genre, espèce, donc les familles des résineux ne sont pas les mêmes que celles des feuillus. Voilà, vous avez ici, par exemple, des pins. Donc, ça a une structure différente et ce ne sont pas les mêmes familles. Bon, vous avez les pinacées, les cupressacées, famille des cyprès.
Vous nous avez dit au tout début, vous avez combien d'échantillons différents dans la xylothèque ?
On a 34 000 échantillons, un peu plus de 34 000 échantillons.
Et est-ce qu'on sait combien il y a de types de bois différents qui sont recensés ?
Au niveau européen, vous avez une idée du nombre d'espèces que vous pouvez avoir ? Est-ce que c'est 10, 100, 1000, 10 000 ?
Je ne sais pas, je dirais supérieur à 1000, j'espère.
Non, en Europe, c'est de l'ordre de 100, 130, 150 espèces, oui.
Ça veut dire qu'on n'a que 130 espèces d'arbres différents en Europe ? La grande majorité de la biodiversité, c'est tropical alors.
Bon, au niveau amazonien, ils sont un peu plus de 5000 espèces recensées. En Guyane, ils sont à plus de 1500 espèces d'arbres. Au niveau grand bassin du Congo, Afrique centrale, c'est à mon avis 3000-4000 espèces. Et au niveau grand bassin asiatique aussi, Asie du Sud-Est, c'est aussi 3000-4000 espèces. Aujourd'hui, on trouve encore de nouvelles espèces.
Il y en a beaucoup d'exilothèques comme ça ou...
Celle-ci en France, à mon avis, c'est peut-être la plus importante. Au muséum, ils ont aussi beaucoup d'échantillons. Bon, au muséum à Paris, après en Europe, c'est Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. En Espagne aussi, vous avez des collections. Bon, c'est lié aussi à l'histoire coloniale des pays, en fait. Et le fait aujourd'hui qu'on soit encore présent dans les DOM, dans les DROMCOM, hein, département, région d'outre-mer et territoire d'outre-mer, permet d'avoir des collections relativement riches en diversité.
Est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent directement sur ces échantillons ?
Alors bon, ça sert à quoi cette xylothèque ? Ça sert en fait à faire de l'identification. Donc l'identification, alors soit pour des bureaux d'études qui veulent rénover un bâtiment, donc ils envoient un échantillon de façon à identifier si c'est du chêne, du sapin ou un autre bois, de façon à reconstruire à l'identique ou à remettre un bois qui a des propriétés similaires. Après, ça peut être l'identification à des fins commerciales. Après, vous avez aussi des archéologues. Récemment, j'ai identifié des bois qui venaient du temple d'Angkor pour des archéologues qui n'avaient pas les moyens d'identifier ces foies.
Alors, donc là, on est encore face à une armoire avec plein de tiroirs. Et alors, il y a des centaines de lames minces, oui, dans chaque tiroir.
Des centaines de lames minces sur lesquelles, en fait, vous avez une... Je vous ai parlé des trois plans principaux qu'on pouvait avoir dans le bois qui permet d'analyser et différencier les différents tissus. Et en fait, il y a possibilité de regarder, c'est un échantillon de bois sous forme d'un petit cul qu'on met sous une loupe ou sous un microscope. Mais une autre technique aussi permet d'observer les tissus du bois, c'est de faire des fines coupes avec un appareil qu'on appelle un microtome, qui sont trempés dans différents colorants et ensuite on les fixe sur une lame de verre de façon à pouvoir les observer au microscope. Je taille un petit cube et puis je regarde ce que je peux voir.
Donc là, on est sur un petit cube de 1 cm par 1 cm à peu près, 1 cm 5.
De l'ordre d'un centimètre cube qui est taillé au ciseau à bois. Donc voilà, attendez, je règle un petit peu. J'essaye d'améliorer, voilà, c'est un peu plus net. Voilà, vous voyez.
Donc là, l'image est retransmise sur un écran, je décris, et on voit peu à peu l'image arriver. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit ?
Ben en fait, vous voyez des petits, comme des petits cercles en fait, qui sont des vaisseaux remplis de dépôts. Autour, vous avez des tissus qui s'appellent des parenchymes, qui, selon les espèces, ont des formes différentes. Donc là, on a l'impression que c'est un œil qui est plus ou moins, plus ou moins aliforme, qu'on dit, c'est-à-dire que ça part avec des formes d'ailes.
Là, on a une machine, une petite machine noire avec une lame, c'est ça ? C'est une lame pour couper qu'on voit en haut ?
C'est ça, c'est une lame, un couteau. Donc c'est un microtome. On positionne un petit cube de bois ici. En fait, on positionne un petit cube ici, dans une sorte d'étau. Voilà. Et puis après, avec le couteau, on va faire des tranches de bois, des petites feuilles. Comme ça. Ouais, c'est très fin, ça fait 20, 30, 40 microns. Après, on colorie, on fixe la lame. Après, on met une résine. Quand la lame est correcte, on met une résine pour la figer, coller. Après, il y a d'autres méthodes aussi. Là, je prends la matière qui est brute. En général, il faut la tremper dans l'eau pour qu'elle soit plus facile à travailler, pour obtenir plus facilement une feuille. Il y en a d'autres qui la trempent dans des résines. Il y en a qui travaillent à froid aussi. Suivant si vous avez des tissus qui sont très mous, ouais, si le bois est très mou, il faut rigidifier.
Pour qu'il
se coupe plus facilement. Sinon, vous écrasez. Ouais. Avec le couteau, ça vient écraser. Tout à l'heure, on a évoqué les bois qui étaient parfumés, enfin dans un sens ou dans l'autre. Et donc, vous avez ici le bois de cadre quoi, qui est bien parfumé.
Et qui sent encore des années après avoir été coupé, en fait. C'est ça qui est étonnant.
Du capour ?
Du capour, oui. C'est...
Capour. Ça, je ne connaissais pas.
C'est celui-là que vous ne connaissiez pas ?
Non, ça, je ne le connais pas. Bah, le cadre, c'est facile un peu à connaître.
Moi, c'est le seul bois qui sent. Le bois de santal, non ? Le bois de santal,
aussi. Une odeur épicée et un peu camphrée.
Vous avez été en chercher des échantillons de bois, des fois ?
En Guyane, oui, en Guyane. J'ai été 6 ans en Guyane, 2 ans en Cameroun, mais c'était plutôt en Guyane, ouais, c'était plus facile. Il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Nagoya, là, maintenant, qui est en place, qui vise à protéger les plantes ou les matières végétales qui évite les trafics qui pourraient exister entre pays. Donc, du coup, nous, quand... On reçoit des échantillons, alors c'est souvent avec des étudiants, des doctorants, mais de nous-mêmes, c'est pas forcément facile de ramener lors d'une expertise ou d'un voyage ou d'une mission dans un pays, ramener dans la valise des échantillons de bois, ça se fait pas quoi.
La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir. La croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup. C'était merveilleux.